Bonjour Pascal Pavageau.
Bonjour.
Le gouvernement a demandé il y a quelques jours aux partenaires sociaux de réaliser entre 3 et 4 milliards d'euros d'économies sur l'assurance chômage au cours des 3 prochaines années. Je me souviens qu'ici même, il y a quelques mois, vous disiez que vous ne vouliez pas que l'exécutif vous dicte le cadre de vos négociations avec le patronat. Est-ce que ça n'est pas ce qu'il est en train de faire ?
Bah, il fait ce qu'il veut, hein, le gouvernement, mais nous aussi. Donc comme ça va régler le problème.
Faire ce que vous voulez, ça signifie quoi ? Est-ce que vous pourriez finalement ne pas tenir compte de cette injonction et négocier directement avec le patronat ?
D'abord, on n'a pas la feuille de cadrage. À l'heure où nous parlons, nous ne l'avons pas reçue. Premier élément. Donc on jugera sur la nature exacte du contenu de la lettre de cadrage. Maintenant, les orientations qui sont données aujourd'hui par le gouvernement, notamment, vous venez de le rappeler, faire de l'ordre de 4 milliards d'économies, c'est-à-dire réduire le déficit ou l'endettement, plus exactement, de l'assurance chômage, dont l'État est en très grande partie responsable, il est hors de question de le faire sur le dos des demandeurs d'emploi d'aujourd'hui.
Parce que donc, ça ne peut pas se faire autrement.
Ah bon ?
Non, je vous demande. Ça peut se faire très simplement.
Il suffit que le gouvernement décide, par exemple, de donner 4 à 5 milliards en moins de CICE aux entreprises l'année prochaine et de l'affecter au désendettement de l'UNEDIC et ça règle intégralement le problème.
Il y a un malentendu, je pense, sur ma question. Je vous demandais si vous deviez, s'il fallait absolument réduire de 3 à 4 milliards d'euros,
ça ne pourrait pas se faire autrement que sur le dos des chômeurs. Nous avons pris une décision, les 8 interlocuteurs sociaux, le patronat et les syndicats. Nous avons pris une décision qui est en gros de gérer aujourd'hui l'UNEDIC depuis un accord qui est en vigueur depuis moins d'un an, où grosso modo, chaque année, nous restons à l'équilibre malgré le cadre contraint du nombre de chômeurs et de la faiblesse du nombre de cotisants au niveau de l'actif, plus des décisions qui ont été prises par l'État de supprimer des cotisations, j'en passais des meilleures, plus le fait que l'État nous demande de financer des politiques d'emploi, etc., etc. Mais bref, nous gérons à l'équilibre aujourd'hui l'UNEDIC. Là, ce qui nous est demandé, c'est de désendetter sur les 35 milliards d'endettement. Là, en l'occurrence, premièrement, il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas de nécessité, et l'État peut très bien prendre sa part, qui encore une fois est réelle, en désendettant avec de l'intervention publique, avec de l'action publique. En gros, il est hors de question de le faire sur les demandeurs d'emploi. Maintenant, pour répondre plus concrètement à votre question, il y a trois familles d'hypothèses en fonction de ce que nous aurons sur la feuille de route. Premier élément, la feuille de route est suffisamment large, souple, ouverte. Nous avions demandé à Force Ouvrière une lettre d'orientation et surtout pas une lettre de cadrage fermée. Ça semble pas être le cas, mais si c'était le cas, ça aurait permis d'avoir la négociation qui s'enclenche de façon immédiate. Oui. Deuxième élément, la lettre est complètement fermée, notamment sur des questions de critères financiers ou sur des obligations de négociation sur des sujets que nous ne voulons pas. Dans ce cas-là, il y a une possibilité qui est que la négociation s'ouvre pas. Et puis, sinon, il y a une troisième hypothèse. C'est que nous allions en négociation tous les 8. Moi, je verrai le mandat qui sera celui de Force Ouvrière, qui me sera donné. On a le Parlement de FO là pendant 48 heures. Oui. On va se décider sur du concret, c'est-à-dire la feuille de cadrage. Mais il y a une hypothèse qui est éventuellement celle que nous allons négocier, mais sur nos bases, sur les bases des 8 interlocuteurs sociaux, en toute autonomie, en toute liberté, en toute indépendance.
Mais c'est cette hypothèse-là que vous retenez pour l'instant, c'est d'aller négocier.
C'est une hypothèse, et si j'en juge par rapport aux interventions des autres secrétaires généraux ici ou là, c'est une tendance en tous les cas qui est possible, voire probable.
Mais vous pourriez prendre les devants et dire on n'attend pas la lettre de cadrage, on y va.
Je pense qu'on aurait pu prendre les devants. On est un certain nombre à penser qu'on aurait pu et peut-être dû prendre les devants. Ça n'a pas été possible. Par contre, ce qui est possible aujourd'hui, c'est que les 5 confédérations syndicales vont écrire aux 3 représentants patronaux pour dire, indépendamment de la question de l'assurance chômage, prenons la main sur un agenda social de négociation et de délibération autonome des 8 interlocuteurs sociaux. C'est ce que nous allons faire et proposer aujourd'hui au patronat, nous, les 5 confédérations syndicales.
Si vous leur proposez aujourd'hui aux organisations patronales, on peut imaginer que vous en avez déjà un peu parlé en amont et qu'il y a sans doute une forme de consensus pour travailler dans ce sens.
Je le souhaite sur les 8 et de plus, si nous le faisons avant que la lettre de cadrage sorte, ça a aussi du sens.
À quoi répond aujourd'hui, selon vous, cette exigence du gouvernement de faire des économies ? Est-ce qu'il s'agit, par exemple, de financer ce nouveau droit à l'indemnisation pour les salariés ou pour les travailleurs indépendants ?
Oui, il y a plein de choses. D'abord, il y a un piège. Nous avoir demandé de négocier alors qu'il y avait une loi qui traitait de l'assurance chômage qui n'était toujours pas votée, c'était nous renvoyer renvoyer une sorte de négociation impossible en disant, vous voyez bien, ils vont pas ouvrir la négociation, donc en gros, ils servent à rien. Donc ça, c'était le premier piège dans lequel, évidemment, personne n'a envie de tomber. Le deuxième point, c'est que, évidemment, pour des raisons toujours aussi absurdes sur le plan européen ou maastrichtienne, de réduction des 3% de déficit public, etc., on nous demande, finalement, de faire des économies là où il n'y a pas besoin d'en faire, et encore une fois, sur lesquelles l'État est en très grande partie responsable. Après, il y a un tour de passe-passe potentiel de renvoyer dans un premier temps sur l'UNEDIC, sur l'assurance chômage, le financement d'un certain nombre d'aides publiques qui relèvent aujourd'hui de l'impôt pour pouvoir assécher encore plus l'UNEDIC et dire in fine, vous voyez, ils n'y arrivent vraiment pas, j'étatise l'intégralité de l'UNEDIC parce qu'en gros, les interlocuteurs sociaux sont des mauvais gestionnaires.
C'est le projet aujourd'hui, selon vous?
Oui, le projet, il est de supprimer toute cotisation, que ce soit la sécurité sociale, que ce soit la retraite, que ce soit l'assurance chômage, pour le remplacer par une espèce d'aide publique conditionné et sous contrainte, c'est-à-dire en gros, aujourd'hui nous avons un droit,
c'est ça.
Nous avons un droit aujourd'hui, un droit individuel. Si je suis au chômage, basé sur un droit collectif, qui est que nous avons tous cotisé et nous avons un droit à indemnisation, comme si nous sommes malades, etc. Ouais. Comme si malheureusement on est à un moment donné sous un seuil de pauvreté, etc. Et c'est remplacer ce droit collectif, en égalité de droit, en une logique finalement de conditionnalité. Uniquement généré et autorisé par l'État. Vous savez, les deux Voldemort, les mots qui ne se prononcent jamais du vocabulaire jupitérien aujourd'hui, c'est égalité et solidarité. Et on le voit tous les jours avec les décisions qui sont prises.
Vous appelez Pascal Pavageau avec plusieurs syndicats, notamment la CGT et l'UNEF, le syndicat étudiant, à une grève interprofessionnelle le 9 octobre prochain pour, je vous cite, empêcher une casse du modèle social tous azimuts. Il y a cette question de l'assurance chômage dont on a parlé. Quels sont pour vous aujourd'hui les autres gros motifs de crispation?
Tout, puisqu'aujourd'hui nous sommes face effectivement à une logique de changement de monde. Une vision qui est celle de l'individualisation avec le bras armé qui est la déprotection. On casse les statuts. On casse les conventions collectives, on casse l'ensemble des cadres collectifs, comme par exemple la sécurité sociale, l'assurance chômage, l'ensemble des éléments qui aujourd'hui ont fait notre République depuis plus de 300 ans et son modèle social depuis plus de 120 ans, qui font par exemple que 93% des travailleurs de ce pays sont couverts justement par un cadre collectif. Donc il y a une logique de déprotection, de changement de monde, de changement de modèle social, en nous faisant plonger dans le chacun pour soi et dans la jungle, sauf que dans la jungle, tout le monde ne peut pas être un lion. Et en l'occurrence, nous défendons au contraire les valeurs du collectif, les valeurs de l'égalité de droit que nous avons construit pas à pas. Et donc le 9 octobre, ce que nous disons à l'ensemble des travailleurs, c'est vous avez votre arbre qui est en feu. Parce que tout le monde aujourd'hui a son entreprise, son administration sur lesquelles ça pose problème. Prenez un peu de recul, regardez, l'arbre du voisin est également en feu, c'est l'ensemble de la forêt qui est en feu. Le pyromane est le même, les mots MAUX de cet incendie sont les mêmes. C'est la déprotection, c'est le refus de répartir la richesse que vous produisez. Et donc, ce qu'on propose le 9 octobre, c'est un canadair. Éteignons ensemble pour préserver ensemble l'intégralité de notre modèle social.
On n'a pas évoqué les retraités.
C'est la même chose.
Ils seront au cœur des préoccupations aussi le 9 octobre.
Les retraités,
vous avez l'impression qu'ils sont vraiment maltraités
Je pense que c'est le moins qu'on puisse dire. Vous savez, aujourd'hui, une personne qui est à la retraite, qui a à peu près 1 200 € de retraite, l'ensemble des mesures ou des contre-mesures du gouvernement lui font perdre de l'ordre de 634 euros par an. C'est quand même assez significatif.
Et si elle fume et qu'elle roule au gasoil en plus, évidemment, son cas s'aggrave.
De surcroît, oui.
Merci Pascal Pavageau.
Merci à vous.
Bonne journée.
Merci vous aussi.